Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, un convoyeur de fonds disparaît, l'argent de son fourgon également, 1 million d'euros. Que s'est-il passé ce matin du côté d'Aubervilliers ? Emmanuel Leclerc nous raconte dans un instant. Passer son permis de conduire plus vite et pour moins cher, bonne affaire ou risque pour la sécurité routière ? Alors que le gouvernement prépare une réforme, vaste manifestation des auto-écoles aujourd'hui, parole de manifestants, et où en sont les plateformes qui concurrencent ces auto-écoles traditionnelles ? L'école, la vraie, obligatoire, dès 3 ans, des surveillants qui peuvent faire cours dans les matières où on manque de profs, la réforme de l'école arrive à l'Assemblée nationale, qu'en pensent les parents d'élèves ? L'invité de ce journal est le co-président de la principale fédération de parents d'élèves, Rodrigo Arenas, pour la FCPE. Week-end de violence particulièrement marqué, pendant ou en dehors des manifestations des Gilets jaunes, le débat continue à travers la France. Emmanuel Macron est-il en train de s'offrir une campagne électorale sur le dos des contribuables ? Polémique lancée par Marine Le Pen ce matin sur France Inter, Cyril Graziani nous donnera les règles. Dans ce journal encore, nous serons en direct de Téhéran, 40 ans de révolution islamique. Comment cet anniversaire est-il célébré ? Le récit des envoyés spéciaux de France Inter. C'est le jour du 112, ça ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est le numéro d'urgence à connaître. À propos d'état d'urgence, que faire pour le 15 de France de rugby ? Parole d'un grand ancien, Abdelatif Benazi, après le naufrage un de plus à Twickenham hier. La météo, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore des averses aujourd'hui.
Oui, sur l'est, sur le sud du pays, avec un petit peu de neige en montagne, des 500 mètres sur les massifs de l'est. En Méditerranée, du vent, des éclaircies. Sur le nord-ouest, jusqu'au nord de la Seine et au nord de la Nouvelle-Aquitaine, des éclaircies aussi. Pour les températures, 4 à 9 degrés à l'est, 8 à 13 en allant vers l'océan et jusqu'à 16 en Méditerranée.
D'autres détails à la fin de ce journal. Avant cela, parole de fleuriste à 3 jours de la Saint-Valentin. Un fleuriste qui espère vendre jeudi plus de 2000 roses contre une centaine par jour habituellement. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Est-il parti avec l'argent ? A-t-il été enlevé ? Un convoyeur de fonds a disparu, l'argent qu'il transportait dans le fourgon également. Cela s'est passé à Aubervilliers ce matin. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Que sait-on Emmanuel de cette histoire ?
Eh bien qu'une quarantaine d'enquêteurs tentent de retrouver ce convoyeur. Ils se demandent depuis ce matin s'il a braqué le fourgon de son employeur ou s'il a agi sous la contrainte, s'il n'est pas en ce moment même au fond d'une cave, saucissonné comme on dit dans le jargon policier, si sa famille n'avait pas été menacée au préalable. C'est la brigade de répression du banditisme du 36 qui s'est donc mis sur la trace de ce convoyeur de 28 ans et d'un butin estimé, vous l'avez dit, à un peu plus d'un million d'euros, 60 sacs au total dérobés à 6 heures ce matin alors que deux convoyeurs de la compagnie Lomis étaient descendus pour ravitailler la banque Western Union. Quand ils sont revenus, leurs collègues avaient disparu. Le fourgon a été retrouvé un peu plus tard, vide dans un quartier voisin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Le suspect recherché est donc officiellement en fuite, est armé. La dernière histoire, hein, Bruno, vous vous souvenez, c'était Tony Muselin, condamné pour avoir dérobé un peu plus de 11 millions d'euros et une partie du butin jamais retrouvée.
Merci Emmanuel Leclerc. Aller plus vite et moins cher, on ne parle plus de convoyeurs de fonds, mais de l'objectif de la majorité concernant le permis de conduire. Un rapport doit être rendu public. On verra ce qu'il suggère. Parmi les pistes, plus d'inscriptions en candidat libre, la fin de l'obligation d'avoir un local pour les auto-écoles et à terme le permis code et conduite qui pourrait être passé pendant le service national universel. Ce sont des pistes uniquement. Mais les auto-écoles traditionnelles, 40 000 emplois, ont peur de rester au bord de la route. Nous ne défendons pas seulement notre beefsteak, disent-elles, mais aussi la sécurité routière. On va vers une ubérisation des auto-écoles. Opération Escargot, ce matin, en région parisienne en particulier, des centaines de voitures-écoles venues d'un peu partout, dont celle de Delphine, qui est monitrice à Granville dans la Manche.
Une formation de qualité, c'est comme quand on achète de la viande, ce qu'on en parlait tout à l'heure. Si vous voulez acheter de la bonne viande de qualité, vous mettez le prix. Voilà.
Ce qui m'embête surtout, c'est qu'on va se retrouver avec des personnes dans les années à venir qui seront peut-être pas formées correctement. Et ils disent qu'il faut faire attention à la sécurité routière, on veut essayer de baisser le taux de mortalité. Et ce qui va me faire peur au fur et à mesure du temps, c'est qu'on va augmenter le taux de mortalité si les gens ne sont pas formés correctement sur le permis de conduire, quoi. Donc n'importe qui ne peut pas apprendre n'importe quoi aux gens. Moi, je suis pas prof de maths, je vais pas faire des mathématiques dans les voitures d'auto-école. Donc les profs dans les écoles qui veulent leur mettre le fameux code dans les écoles qu'on a aujourd'hui publiques ou privées, s'ils leur apprennent à faire du code, ils vont faire comme ils font aujourd'hui à la SSR. Ils vont passer un DVD, ils vont pas leur expliquer ce que c'est réellement la conduite ou ce qu'il faut expliquer au niveau des panneaux et comment s'engager, etc. Donc chacun son métier.
Delphine interrogée par Béatrice Duguay, porte d'Auteuil à Paris. Ce matin, des manifestations sont également prévues dans la journée, au fil de la journée à Bordeaux, à Marseille, à Nice. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Alors quand les auto-écoles traditionnelles parlent de risque d'ubérisation, elles visent les plateformes qui leur font concurrence depuis quelques années, les Ornicar, En Voiture Simone, Permis.net. Où en est leur développement, ces plateformes?
Eh bien, ces plateformes en ligne ont grignoté depuis 2015 et la loi Macron qui leur a ouvert la porte jusqu'à 20% du marché. 200 000 candidats formés chaque année via ces sites internet avec des moniteurs d'auto-école auto-entrepreneurs. Problème, le principe du passage de l'examen en candidat libre sur lequel s'appuie ce modèle reste inachevé dans la pratique, insiste Florian Lerendu, le directeur général d'Ornicar.com, car les auto-écoles classiques ont des places d'examen réservées. Il faudrait donc, explique-t-il, arrêter cette pratique.
C'est la possibilité pour chaque candidat de pouvoir se présenter à l'examen pratique quand il le souhaite. C'est donc la fin de la situation de prise d'otage par les auto-écoles des candidats. Les heures supplémentaires, elles existent en très grand nombre, parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre le formateur qui est l'auto-école, qui possède la place d'examen et qui donc se retrouve en position de force pour dire « Ah ben non, tu n'es pas tout à fait prêt, prends donc des heures supplémentaires ».
Des plateformes en ligne qui affichent un prix d'appel de 750 €, on est loin des 1 800 € pratiqués par les auto-écoles de proximité, sauf que les élèves ont souvent besoin d'heures en plus, qui au final gonfle la note, assure les syndicats d'auto-écoles traditionnelles qui dénoncent un véritable mirage, des syndicats qui avouent tout de même que la concurrence de ces plateformes les a un petit peu secouées, hein, forcées à se moderniser, mais qu'il ne faudrait pas aller plus loin. Accusées, vous l'avez dit, d'ubériser le métier, les start-up du permis de conduire se défendent de leur côté en expliquant qu'elles proposent simplement de faire travailler les mêmes moniteurs diplômés que les auto-écoles classiques, mais à leur compte, au bénéfice, disent-elles, des consommateurs.
Dans l'actualité internationale, un chiffre pour alimenter le débat sur le Brexit, 1,4%, c'est la croissance l'année dernière, croissance britannique, c'est son niveau le plus faible depuis 6 ans selon l'Office britannique de la statistique. Un chiffre et une date, 11 février 1979. Un pays et une partie des relations internationales basculaient dans une nouvelle ère. C'est aujourd'hui les 40 ans de la révolution islamique en Iran. 40 ans d'un Iran qui incarne le diable de service pour les États-Unis. Un Iran qui ne parvient pas à sortir de la crise économique. L'administration Trump fait tout pour lui laisser la tête sous l'eau. Un Iran dirigé par une classe politique et religieuse dont la jeunesse en particulier se lasse un peu plus chaque année. Comme chaque 11 février, l'anniversaire est célébré. A-t-il une coloration particulière cette année? Eh bien, nous allons voir cela avec les envoyés spéciaux de France Inter en direct, Gilles Gallinaro et Franck Madvon. Bonjour Franck.
Bonjour Bruno.
Comment se passent les cérémonies, Franck?
Alors, drapeau iranien, slogan anti-américain, chant révolutionnaire, voilà ce qu'on a vu et entendu, Bruno, ce matin, place Azadi à Téhéran. La foule a bravé la pluie froide qui tombait sur la ville pour fêter l'avènement de la République islamique. Les Iraniens dans la rue aujourd'hui soutiennent le régime, bien sûr. Ils sont attachés aux valeurs de l'islam chiite. Vida, vêtue d'un chador, comme presque toutes les femmes sur cette place, vient chaque année.
Je suis une enfant de la révolution. Voilà 40 ans que j'assiste à ces célébrations. Je viens ici pour applaudir les succès de notre République islamique. Aucun pays ne pensait alors que la révolution tiendrait 40 ans.
Alors Franck Madvon, vous qui êtes en direct de Téhéran, ce qu'il faut dire, c'est que cet anniversaire arrive à un moment difficile pour l'Iran.
Oui, les sanctions américaines rétablies l'an dernier, vous le savez, ont plongé à nouveau le pays dans la crise, mais l'Iran ne veut pas courber l'échine. Il vient par exemple de dévoiler un nouveau missile, alors que le programme balistique inquiète l'Occident. Voici le commentaire à ce propos du président Hassan Rouhani dans son discours ce matin.
Nous n'avons jamais demandé et ne demanderons jamais à personne l'autorisation de fabriquer des véhicules blindés, des missiles anti-aériens ou des missiles de croisière. Et nous continuerons sur ce même chemin.
Rouhani a aussi vanté son bilan, mais les Iraniens sont très critiques. Les plus conservateurs estiment qu'il a accordé trop de concessions à l'Occident, alors qu'une grande partie de la population demande plus de réformes et de respect des libertés. Et cela, Bruno, n'ont pas manifesté ce matin.
Franck Madvon, en direct de Téhéran avec Gilles Gallinaro. Votre reportage, vos reportages sur les 40 ans de la révolution islamique en Iran, on les retrouve également, Franck, sur franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Manifestation de Gilets jaunes, acte 13 ce week-end. Et sur l'échelle de la violence, le week-end est à mettre haut. Des manifestants qui essayent de forcer l'entrée de l'Assemblée nationale. La police s'interpose. Jet de grenade, dont une grenade Gli F4, ces armes très controversées. Un manifestant de 30 ans à la main arrachée. Dans quelles circonstances la reste floue. Version ministre de l'Intérieur, il a pris la grenade pour la projeter sur les forces de l'ordre. Version de son avocat, il a essayé de se protéger en tendant la main. À Paris encore, mobilier urbain ou distributeur de banque cassé, une dizaine de voitures incendiées, dont une de la force antiterroriste Sentinelle. Pour le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, l'ultra-gauche était à la manœuvre ce week-end à Paris. Cela paraît plus anecdotique, mais cela raconte aussi un climat. Ce week-end encore, prise de position de l'acteur François Berléand, tout en nuances à propos des gilets jaunes. Depuis le début, ils me font chier. À Saint-Jean-de-Luz, Pays Basque, il y a un garçon qui s'appelle François Berléand, quasi homonyme, journaliste indépendant de son métier. Depuis ce week-end, il est harcelé sur Twitter.
J'ai reçu des messages haineux, méchant. C'est quand même assez consternant d'en arriver là et puis de se dire que les réseaux sociaux, c'est sans aucun filtre et avec beaucoup de haine. Quand quelqu'un parle, ça peut faire mal. C'est à l'image de cette société où les gens sont sans filtre, pensent et disent ce qu'ils veulent. Je vais pas forcément partir dans la surenchère. Mais je pense pas porter plainte.
Voilà, pas de surenchère, il ne veut pas porter plainte. Harceler aussi les élus proches de La République En Marche ou officiellement encartés. 80 permanences parlementaires dégradées depuis le début du mouvement. En Bretagne, dans le Finistère, le domicile du président de l'Assemblée visé par une tentative d'incendie. Et dans les Côtes-d'Armor, façade taguée à la mairie et au domicile du maire de Calanel, 230 habitants près de Guingamp. C'est un sympathisant de La République En Marche qui a notamment pris position contre le référendum d'initiative citoyenne. Tag élus tous pourris, labo, LREM, corruption, voilà ce qu'il a vu sur sa mairie ou son domicile. Pendant ce temps, le grand débat se prolonge et une controverse est en train de monter. Controverse notamment alimentée par Marine Le Pen ce matin sur France Inter.
Emmanuel Macron a le droit de faire campagne. Après tout, on est à 3 mois des élections européennes, mais qu'il le fasse de manière loyale, qu'il ne le fasse pas avec l'argent des contribuables, qu'il ne le fasse pas avec des moyens qui ne sont pas accordés, en l'occurrence, à ses adversaires. Le CSA, je crois, a déjà été saisi, mais le CSA, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'entend pas beaucoup. En effet, sur ces dizaines d'heures de retransmission du discours présidentiel...
Mais vous allez les saisir ou pas? Personnellement.
Quant à la CNCCFP, elle se saisit a posteriori. Mais c'est sûr que Emmanuel Macron fait aujourd'hui ce qui a valu à Nicolas Sarkozy le rejet de son compte lors de la campagne présidentielle.
Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Est-ce que Marine Le Pen et d'autres opposants ont raison d'accuser le président de mener une campagne déguisée sur le dos du contribuable, entre guillemets? Quelles sont les règles?
Alors, on va reprendre déjà toutes les interventions du président de la République. 6h45 à Grand-Bourtroude, même chose à Souillac, 3h à Bourg-de-Péage, 7h avec les élus d'outre-mer à l'Élysée, 6h à Évry et 4h30 la semaine dernière à Étang-sur-Arroux. Des interventions d'Emmanuel Macron, il parlait la moitié du temps, retransmis à chaque fois ou presque en quasi-intégralité sur les 4 chaînes d'information. Alors quand Marine Le Pen, on l'a entendu, parle de campagne déguisée, à droite on évoque pareil une campagne qui ne dit pas son nom. Première question, est-ce que ça a une incidence sur les temps de parole pour les européennes? Non. Pour le CSA, la campagne des européennes n'a pas encore débuté. Les règles ne s'appliquent en général que pendant les 6 semaines qui précèdent l'élection. En revanche, les propos du président seront intégrés au temps de parole de l'exécutif. Car depuis une nouvelle règle instituée en janvier 2018, un tiers du temps de parole hors période électorale lui est réservé. Le reste est partagé selon le principe d'équité entre les différentes formations politiques, en fonction notamment de leurs résultats aux élections. À l'Élysée, on s'en satisfait, on refuse catégoriquement de parler de campagne, même si la flamme de 2017 pour beaucoup de proches d'Emmanuel Macron s'est à leurs yeux rallumée ces dernières semaines à tous égards.
Et les conséquences économiques du climat actuel, près de 70 000 salariés au chômage partiel selon les derniers chiffres donnés. Et puis nous parlions de Marine Le Pen, elle a déposé plainte pour menace de mort après un tag peint sur le mur de la salle où elle a tenu un meeting ce week-end à Saint-Ébremont de Bonfossé. C'est dans la Manche, tag où il était écrit RN, une balle dans le front. Malgré le grand débat en cours, les manifestations tous les week-ends, certaines réformes avancent. C'est le cas de la réforme de l'école en débat à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Parmi les mesures phares, et cela rentre en application à la rentrée prochaine, parmi les mesures phares, il y a la scolarité obligatoire des 3 ans, la possibilité pour les surveillants d'enseigner dans les matières en particulier où on manque de profs. Que pensent les parents d'élèves de cette réforme? Bonjour Rodrigo Arenas.
Bonjour.
Co-président de la FCPE, principale fédération des conseils de parents d'élèves. Regard général sur la réforme, elle est positive, elle fait avancer le schmilblick?
Ce qui ne fait pas avancer Spielberg, c'est qu'elle a été faite sans consulter les corps intermédiaires et que pour le coup, on est dans un rapport direct, on va dire, entre un ministère et on ne sait pas qui d'ailleurs, puisque apparemment, ça ne s'est pas discuté avec les parents non plus, y compris dans les écoles. Donc on voit bien que les méthodes varient selon les sujets, mais d'une certaine façon, tout ce qui fait débattre de l'école aujourd'hui est quelque chose d'utile. À condition évidemment qu'on se pose la seule question qui est importante pour les parents, c'est qu'est-ce qu'on attend de nos enfants. Or aujourd'hui, on se rend compte qu'on attend plus de pouvoir public à travers les objectifs financiers que les questions pédagogiques qui donnent une perspective à nos enfants, qui est bien compliquée quand on parle de choisir son avenir. On a l'impression quand même qu'on est plutôt imposé qu'autre chose.
Alors, pas assez de concertation. La scolarité obligatoire des 3 ans, on le sait, hein, ça concerne très peu d'élèves puisque la plupart vont déjà à l'école.
En métropole, quand ils sont dans les départements d'outre-mer, c'est loin d'être le cas.
C'est une mesure d'égalité, peut-on dire? Est-ce que c'est ce que vous dites? Est-ce que vous l'approuvez?
Alors, en fait, dès lors qu'on aide à l'universalité de l'école pour tous les enfants, c'est évidemment le rôle de la République que de le faire. Le problème qu'on a, c'est qu'en métropole, ça consiste plus à faire un transfert financier des écoles publiques vers les écoles privées, puisque certains maires, d'ailleurs, annoncent le chiffre de 150 millions d'euros, le ministère 100 millions. Voilà,
du coup, scolarité obligatoire, il faut aussi financer les écoles privées, comme on le faisait jusque-là dans le primaire, écoles privées sous contrat. C'est l'une des conséquences de la loi.
C'est exactement ça, dans la mesure où les écoles maternelles et primaires sont de la prérogative des communes. Et ce n'est pas que le bâti, c'est aussi les ATSEM, c'est-à-dire le personnel qui va avec, puisque comme vous venez justement de le dire, les enseignants sont eux pris en charge par par l'État, en fait. Donc et voilà, c'est la loi Carl. On va pas relancer la guerre scolaire ici. En tout cas, on espère qu'elle sera pas relancée à travers cette mesure-là. Le problème, c'est qu'on a besoin de ces moyens-là aussi dans le public. C'est-à-dire que l'universalité de l'école publique fait aussi prendre en compte que les moyens humains qui viennent avec doivent aussi être déployés. Or, on sait, et d'ailleurs beaucoup de ce qu'on appelait les ATSEM, etc., ont manifesté ces derniers temps, parce que tous ces personnels-là aujourd'hui sont en nombre insuffisant dans les écoles publiques. Donc, c'est de l'argent qui est nécessaire dans l'école publique, qui manquera au rendez-vous, sauf si on est en train de dire aux communes augmenter les impôts, ou arrêter de faire des ronds-points, ou arrêter de faire de la police municipale, ou ce genre de choses. Ce qui se discute, mais en tout cas, c'est de l'argent qui aujourd'hui était destiné aux écoles publiques qui ne sera pas au rendez-vous au prochain exercice budgétaire.
Les ATSEM, vous l'avez un peu dit, hein, c'est les dames, parce que la plupart du temps, ce sont des femmes qui aident.
Ce qui en dit long, d'ailleurs, sur la façon dont on recrute dans notre pays, qui est très genrée sur certains métiers.
Qui aident les maîtres et les maîtresses dans les écoles maternelles. La possibilité offerte à des étudiants, deuxième, troisième, quatrième année d'études, d'enseigner dans les matières où on manque de profs, est-ce que vous dites, après tout, c'est une solution, il vaut mieux ça que rien, ou est-ce que vous dites, là aussi, il y a enseignement au rabais?
Déjà, c'est déjà le cas. Il y a déjà des étudiants qui sont enseignants.
Là, il y aurait 3000 contrats, c'est un peu plus formalisé.
C'est ça. En fait, si vous voulez, c'est pallier à l'urgence, parce qu'effectivement, dans notre pays, il y a un déficit d'enseignants qui est chronique. Ce qui est dommageable dans cette histoire-là, c'est qu'on va gérer de façon technique et pragmatique un problème de fond. Et c'est bien le problème qu'on a dans notre pays, c'est qu'on va dans le pragmatisme en oubliant le sens et la perspective. Aujourd'hui, il faut se dire et il faut accepter que la France n'est pas capable structurellement de pouvoir recruter des enseignants. Pour plein de raisons, d'ailleurs. Les enseignants vont dire pour des questions de salaire, pour des questions de bâti, enfin de logement, clairement dit. Les parents vont dire aussi par manque de perspective, où on enferme les gamins dans des couloirs de piscine où leur avenir est dicté dès le début. Par exemple, on sait aujourd'hui que l'essentiel des gamins, c'est plus des gamins du coup, qui font par exemple les grandes écoles, viennent de 10% des lycées français. Vous voyez, c'est ça l'école de la confiance. C'est qu'aujourd'hui, il y a clairement de la défiance, parce que selon l'endroit où vous êtes né et la famille dans laquelle vous grandissez, votre destin finalement est déjà quasiment écrit à l'avance.
On ne se donne pas, Rodrigo Arenas, les moyens avec cette réforme de changer réellement l'école et de la rendre plus égalitaire, c'est ce que vous nous dites.
Parce qu'en fait, on est en train de pallier à des problèmes chroniques de l'école depuis des années, c'est-à-dire que la question du recrutement des enseignants, la question de la perspective, la question des moyens pour l'école privée dont vous avez parlé à l'instant, l'école privée, on imagine les choses simplement. Non, attendez, il y a des endroits en France, je pense notamment à la côte ouest, tout ce qui est Vendée, Maine-et-Loire et tout ça, il y a des villes, il y a des communes où il n'y a pas d'école publique. Donc clairement, il y a une vraie, selon le territoire dans lequel on appartient, le débat ne se pose pas de la même façon et on a besoin de remettre de l'État. Mais remettre de l'État, c'est-à-dire aller vers l'égalité de traitement des élèves indépendamment de la famille dans laquelle ils sont nés ou le territoire dans lequel ils ont grandi, c'est ça le rôle de l'État. Et aujourd'hui, on est loin du compte parce qu'on est dans le pragmatisme de pallier en fait là où ça gueule le plus fort. Et c'est pas comme ça qu'on gère une éducation nationale, à notre sens en tout cas en tant qu'FCPE.
Merci beaucoup Rodrigo Arenas d'être venu dans les studios de France Inter répondre à nos questions et cette question du financement des écoles privées. On retrouve tous les détails sous la plume de Sonia Bourane sur France Inter. Point.fr. Message à ceux à présent qui pensaient que le sexisme était une affaire de vieux cons, qu'il suffisait d'attendre quelques années pour que ça passe. Eh bien non, la génération d'en dessous, même les plus branchés, les plus geeks travaillant pour les médias les plus cools, peuvent être gratinés. C'est l'affaire de la Ligue du LOL qui agite les réseaux sociaux depuis ce week-end. Une bande de trentenaires qui se sont rencontrés en école de journalisme et ont formé un groupe dont le grand jeu était de fomenter des canulars humiliants ou de harceler des militantes féministes en particulier. Dans la bande, il y a des noms que vous connaissez peut-être. Deux viennent d'être mis à pied à titre conservatoire par Libération, Vincent Glade, Alexandre Hervaux. Écoutez, une victime de la Ligue du LOL, elle s'appelle Lucille Bellan, elle est journaliste à Slate.fr.
Quand ça a commencé, moi j'avais 25 ans, je commençais ma carrière de journaliste et j'étais féministe. Devenir une victime de la Ligue du LOL, ça veut dire que ces personnes allaient récupérer toutes les informations qu'on publiait sur les réseaux sociaux, toutes les informations qu'on publiait dans notre travail, parfois des photos de soirées où on avait été, pour les détourner. Mon identité a été usurpée sur Twitter et sur Tumblr, sur deux sites donc internet, et leur but assumé, avec des commentaires sur mon blog très bien formulés, leur but a toujours été de me prouver que j'étais complètement bête et que je ne méritais pas de m'exprimer, et que si je m'exprimais, j'allais au-devant de moqueries, et c'est ce qui se passait à chaque fois.
Ça a eu des répercussions sur votre vie réelle ?
Ça en a encore aujourd'hui. J'ai une confiance en moi proche du néant. Il y a eu des crises d'angoisse, j'ai eu peur. J'ai eu l'impression pendant des années que je ne méritais même pas d'exister. Parce que si j'existais, c'était pour être le jouet d'autres personnes.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Yann Gallic. Et sur cette histoire aussi, vous trouverez plus d'informations sur franceinter.fr. C'est aujourd'hui la journée européenne du 112. La quoi, allez-vous dire ? Oui, la journée européenne du 112, ce numéro gratuit d'urgence que vous pouvez composer partout en Europe pour contacter les secours. Au fond, si on ne devait connaître qu'un numéro, ce devrait être celui-ci et ça n'est pas toujours le cas. Alors à quoi sert le 112? Où est-on orienté quand on le compose? Reportage dans la région de La Rochelle, Louise Buyens.
Le 112, un numéro pas très connu des Rochelais.
Je connais le 15, le 18 et la gendarmerie 17.
Est-ce que vous connaissez le 112?
Non. Vous connaissez le 112, les filles? Non. Non, non.
C'est le médecin, non? C'est pas ça?
Mais il faudrait peut-être simplifier les choses. Qu'on arrête 36 numéros, qu'on en ait qu'un seul.
Et justement, le 112 est un numéro européen unique qui permet de contacter les secours. En Charente-Maritime, ce sont les pompiers qui répondent. Et si besoin, ils redirigent l'appel vers le SAMU ou les forces de l'ordre.
Pompiers vous écoutent?
Ce jour-là, sept opérateurs répondent au téléphone dans le centre d'appel de Périgny, près de La Rochelle.
Allô, Maréchal Leclerc.
Il vient d'y avoir un accident à Royan, c'est le SAMU qui a été appelé, mais c'est aux pompiers d'intervenir.
Des fois, les gens, ils appellent le 15, le 18, le 17, des fois, ils ne sont pas toujours au courant des numéros qui sont attribués à chaque service. C'est interconnecté, on va dire. Oui, bonjour le CONIS.
L'intérêt du 112 unique, c'est justement d'éviter de mélanger les numéros. En Charente-Maritime, il est très utilisé par les étrangers, explique le capitaine Damien Marsac.
L'intérêt, il est vraiment d'avoir un numéro unique de secours pour les gens qui ne se rappellent pas ou alors ne connaissent pas les numéros du pays dans lequel ils se trouvent. Et ça leur permet d'éviter de réfléchir et de faire le 112 et d'être sûr d'être pris en compte par un service d'urgence.
Et forcément, c'est en été que le centre reçoit le plus d'appels. Environ 800 par jour au mois d'août. Le reste de l'année, on en compte 470 en moyenne.
Un service d'urgence, les rugbymen français en ont bien besoin. Jamais dans l'histoire moderne du rugby, l'équipe de France a traversé une aussi longue phase de médiocrité. Est-ce qu'on a touché le fond avec la déculottée hier en Angleterre, 44 à 8 faisons d'ores et déjà une croix sur ce tournoi des Six Nations. Comment amorcer le début de l'esquisse d'un retour à la surface à 7 mois de la Coupe du Monde? Élément de réflexion avec Abdelatif Benazi, l'un des grands bleus des années 90. 78 sélections, 8 tournois des Six Nations et 3 Coupes du Monde au compte.
Comment sauver le 15 de France? C'est envoyer les équipes des jeunes qui ont été champions du monde avec moins de 20 ans et qu'il faut leur donner leur chance, les laisser s'aguerrir au haut niveau, même s'ils font des contre-performances. Il faut être courageux, vous savez, on n'a rien à perdre.
Quand vous dites qu'il faut être courageux, est-ce qu'il faut dire à des gens comme Picamol ou Bastaro, c'est fini?
Bien sûr, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Là, on prépare l'avenir. L'avenir, c'est pas eux.
Pour vous, est-ce que Bernard Laporte, le président de la fédération, a une responsabilité dans ce naufrage?
Beaucoup, beaucoup. Je lui donne l'entière responsabilité. Arriver et chambouler le 15 de France, mettre l'ancien entraîneur dans une situation de faute professionnelle alors que c'est quelqu'un qui mérite une sortie honorable, Tout ça, les joueurs le sentent. Et ces joueurs-là, quand ils viennent en équipe de France, ils sont méconnaissables. Ça, on le paye cash. Aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés de sa politique. J'espère qu'on se remettra de ça.
Et l'ancien entraîneur, pour mémoire, c'était Guy Novès, Abdelatif Benazi, avec Cécilia Arbona. Parmi les grands rendez-vous sportifs des années à venir pour le sport français, il y a les JO 2024 à Paris, avec sans doute l'apparition de nouvelles disciplines. C'est une information que vous nous donniez dès ce matin pour France Inter, Fabrice Rigobert, de l'escalade, du surf, du skateboard, du break dance peut-être, Fabrice, ce sont des sports où il y a peu d'athlètes, ça n'est pas un hasard.
C'est l'une des préoccupations, Bruno, des organisateurs des Jeux de Paris. Comment respecter le quota de 10 500 athlètes fixé par le CIO en 2024, sport additionnel compris, lorsque l'on sait qu'il y en aura 10 600 à Tokyo pour les 28 sports olympiques, plus 700 environ pour les sports additionnels, surf, escalade, skate, karaté et baseball. Solution simple, on ne prend que 4 sports additionnels à Paris, au lieu de 5, ou peut-être même moins. On fait sortir le baseball et le karaté, le baseball sport d'équipe, pour faire entrer le breakdance où il n'y avait par exemple que 40 danseurs aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en octobre dernier. Nous avons ainsi des sports qui cochent toutes les cases, des disciplines plutôt individuelles, capables d'intéresser un public qui n'a pas l'habitude de regarder ni de participer aux Jeux, de manière à élargir cette audience indispensable. Les dossiers restent pour le moment à l'étude, notamment au niveau des coûts, car pas question de dépasser les budgets. Tony Estanguet doit se rendre cette semaine à Lausanne avant d'annoncer sa liste le 21 février. Le CIO décidera dans cette liste les sports additionnels qui seront soumis au vote du Comité international olympique, et ça, ce sera en décembre.
Merci Fabrice Rigobert. Bien avant 2024, le grand rendez-vous sportif de la semaine, le PSG contre Manchester United en Ligue des Champions, sans Neymar, ni Cavani, ni Thomas Meunier, c'est demain à 21h. C'est mon actu chaque lundi dans ce journal, votre actualité de la semaine à venir. Et cette semaine, avant le 14 février, un fleuriste, évidemment, il s'appelle Gilles Potier, il travaille à Paris depuis 40 ans. Confidence, anecdote au micro de Sandrine Houdin, pour lui la Saint-Valentin a déjà commencé.
On se mobilise presque une semaine avant.
Ah ouais.
Oui, tous les employés sont là, font beaucoup plus d'heures que d'habitude. Et il faut être prêt dès la première heure, parce qu'il y a des amoureux transis qui, dès l'ouverture, sont présents. On est quand même un peu sous tension.
Qu'est-ce qu'ils achètent en 2019?
Ils adorent les roses, bien sûr. Sur une moyenne annuelle d'environ 100 roses jour, nous pouvons facilement dépasser les 2000 ce jour-là.
Et la rouge?
Et la rouge pour la Saint-Valentin continue à être tout en haut du podium. On doit vendre 7 roses rouges pour 10 roses vendues.
Le français reste traditionnel.
Le français, oui, reste en grande partie traditionnel.
Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter pour la Saint-Valentin?
On va éviter, par exemple, les roses jaunes. Le jaune était considéré comme l'infidélité.
Quoi d'autre?
Les cactus, par exemple.
Vous avez justement des demandes complètement loufoques.
Il arrive que l'on en ait. On peut nous demander des cartons complets de pétales de roses parce que la personne veut faire un sentier de pétales jusqu'au lit pour guider sa chérie. Voilà.
Qu'est-ce qui vous fait marrer?
Ce qui nous fait marrer, c'est quand des personnes ont oublié la Saint-Valentin. Valentin et arrive le lendemain, ça veut dire que la soirée, elle a peut-être été un peu soupe à la grimace.
Quoi d'autre encore?
Que des messieurs nous commandent plusieurs bouquets à des destinations différentes.
Quoi, ça veut dire qu'il y a le bouquet pour l'officiel et le bouquet pour l'officieuse? D'accord, j'ai compris, ça veut tout dire. Au-delà du chiffre d'affaires, vous aimez cette fête?
Ah oui, oui, oui. Mais moi, au-delà du chiffre d'affaires, je préfère très nettement la Saint-Valentin à la Toussaint. Oui, bien sûr. C'est quand même une fête des gens qui s'aiment. Il faut vivre les beaux sentiments. Il faut rester romantique, c'est important.
Et il y a des fois où le fleuriste n'a pas intérêt de se tromper d'adresse.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton. Et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avant les fleurs, la pluie, Elodie Calac.
On retrouve les averses dans le sud et dans l'est aujourd'hui, surtout près des Pyrénées et des frontières de l'est. En montagne, il neige vers 1000 mètres sur les Pyrénées, 800 mètres sur le massif central, 500 mètres sur les Vosges, le Jura, les Alpes. Autour de la Méditerranée, c'est plus lumineux. On a de belles éclaircies au prix du vent, un vent de nord-ouest assez fort. Et puis sur les régions de l'ouest, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, au bassin parisien, au Pas-de-Calais et aux Ardennes, là ça s'améliore, ça s'éclaircit. Les températures évoluent peu, petite baisse pour le sud-est tout de même, 5 degrés à Besançon, 6 à Metz, 8 à Lille et à Lyon, 10 degrés à Paris, 12 à Nantes, à Marseille, 13 à Bordeaux, Perpignan et 16 à Nice. Demain, des gelées le matin, pas mal de grisailles, ça s'arrangera l'après-midi, sauf sur le nord-est.